Bonjour à toutes et à tous. C'est agréable d'arriver quand même une heure plus tard au culte. Hein, vous ne trouvez pas qu'il faudrait faire 11 heures? Ah, moi j'aime bien, je me sens mieux là. Bon. J'étais tout excité, réjoui de venir ce matin. Est-ce la découverte, la nouveauté? Au revoir les enfants. À partir de maintenant, ce sera ennuyeux, donc c'est mieux que vous alliez ailleurs. Donc s'il y en a qui veulent les rejoindre, sentez-vous libre, je ne serai pas trop vexé. Je comprends. Merci madame. Pardon. Donc merci Daniel pour cette belle présentation. Je suis soulagé d'une chose, c'est que monsieur Bachet n'est pas là aujourd'hui. Mais madame est là, oui. Mais je vous explique pourquoi. Oui, parce que madame et moi, nous sommes arrière-petits-petits-cousins. C'est ça, hein, quelque chose comme ça. Bon, on a un arrière-grand-père en commun. Bon, ça, c'est un détail pas très important. Non, mais j'ai suivi un cours de prédication visuelle avec Henri il y a de nombreuses années, tout au début de mon ministère. Et donc là, il pourra pas vérifier si c'était vraiment bien, enfin, si j'ai continué à mettre en pratique. Bon. Alors, on peut parler peut-être après, trouver un arrangement. Bon, on va arrêter là les présentations. Hein, vous avez vu mon parcours. Pourquoi? Et peut-être pourquoi je suis plus pasteur au Buis. Ça, c'est peut-être intéressant quand même. Vous dites, mais après 12 ans, c'est une question qu'un ami m'a posée. Mais pourquoi tu arrêtes? T'as une position, enfin voilà, tout va bien. Et à coup, tu quittes tout ça parce qu'on est parti avec ma famille, donc mon épouse. Et nos deux filles, on a quitté, on a démissionné, alors que j'avais un congé sabbatique qui était proposé, enfin qui était accordé. Mais on a décidé de démissionner pour partir en mission pendant quelques mois. On est parti au Québec, et ensuite une destination absolument horrible qui s'appelle l'île Maurice. C'était très très dur. On a vraiment souffert, la chaleur, c'était dur. Bon. Non mais ça, c'est parce qu'avec Christophe, là-bas, on est parti à Tahiti il y a 20 ans, et c'était aussi très très dur. Bon, passons. Donc on a lâché tout ça, un petit peu cette sécurité, parce que vraiment c'est l'invitation du Seigneur pour nous. Il y avait vraiment cette image, on est comme dans une barque, et puis cette barque elle quitte le port, et puis ben voilà, maintenant il faut aller plus loin. Vous étiez bien au chaud, au port, voilà, alors on est dans une barque, hein, on est d'accord, mais il y avait vraiment cette invitation à quelque part prendre le large, prendre un risque aussi de quitter cette sécurité. Et c'est ce que je dis à ma femme depuis qu'on est rentré. Oui, nous sommes dans une certaine instabilité, mais on est en sécurité parce que Jésus est avec nous dans la barque. Alors, est-ce qu'on veut la stabilité, un travail, voilà, tout bien réglé, avec un salaire, boum, 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 ou est-ce qu'on veut la sécurité que Jésus offre? Alors, voilà, alors on choisit la sécurité, et certes, cette sécurité-là que Jésus, en tout cas pour nous, amène une certaine instabilité, selon les critères du monde, je dis bien, mais on est réjoui parce que voilà, on est défié, on est réjoui. Donc on a fait ce voyage missionnaire, un petit peu pour prendre l'air, vivre une dimension familiale, voilà, renforcer nos liens. On a vécu 3 mois dans la même chambre, 10 mètres carrés pour les 4, hein, donc c'était sympa. Voilà, c'est pas pratique pour tout, mais voilà, on a vraiment vécu quelque chose de fort, d'intense en famille. Et donc on est rentré avec cette expérience-là. Et pendant ce temps-là, le Seigneur nous invite. Au niveau du ministère, parce que j'étais consacré pasteur évangéliste, ça c'est la reconnaissance, le titre que j'ai reçu, et il y a vraiment l'invitation à développer le ministère d'évangéliste actuellement. Donc ça c'est la raison pour laquelle je suis plus pasteur dans une paroisse, mais que je commence ce projet qui s'intitule « Accompagner l'Église dans une stratégie pour être témoin dans notre région », mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je vais quand même prêcher. Avant de vous l'expliquer, vous ayez un petit peu quelque chose pour vous ennuyer. Voilà. Non. J'aimerais prendre un texte d'Ésaïe qui nous parle d'une vision. C'est la vision que Ésaïe a à ce moment-là. Je vais vous lire quelques versets du chapitre 6 que j'aurais pu d'ailleurs donner à Daniel. Bon, j'aime bien lire la Bible, c'est pour ça. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit la terre, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix que retentissait qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Ça, c'est la vision d'Ésaïe. À ce moment-là, il voit Dieu sur son trône, quelque chose de majestueux. Hein, les montants, les portes, les montants ont commencé à trembler. Il y avait une intensité. Je pense que Ésaïe devait faire comme les montants de ses portes. Il y avait une pression qui était là avec la sainteté de Dieu. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas se tenir devant Dieu et vivre. Donc c'est dangereux, je veux dire, en tout cas à l'époque. Il y avait vraiment cette intensité et il a vu, il a regardé. Il a compris là combien Dieu est puissant, combien Dieu est saint. Et cette perception, cette vision qu'il a, va opérer en lui comme un changement. Hein, nous réalisons qui est Dieu. Là, Ésaïe prend conscience de qui est Dieu, non, à travers ces quelques versets. Ça peut nous faire écho à ce texte d'Exode où on voit Moïse qui demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il y a cette recherche, ce désir de Moïse de dire, mais je veux te voir, voir qui tu es, voir cette gloire. Et au fond, c'est un peu ces deux textes, ce texte de l'Exode ou ce texte d'Ésaïe nous montrent, mais voilà, quelle est notre vision de Dieu et quelle est notre soif de connaître Dieu. Exode 6 nous dit, mais je ne me suis pas fait pleinement connaître à eux. Dieu désire se révéler, c'est son projet. Alors c'est sûr qu'il est ce Dieu trois fois saint, 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 saint et l'éternel. Il y a quelque chose de majestueux qui est là. On a besoin de saisir, on a besoin de comprendre. Et pourtant, la réalité de nos vies, nos semaines, les difficultés de la vie, les pressions de la société, nos imperfections, nous amènent à avoir une vision limitée de Dieu. Parce que, tout à coup, la vie est difficile. Les exigences sont là, le rythme, voilà toutes les attentes qu'on peut avoir sur nous ou qu'on a des autres. L'attente de la société sur nos vies, alors on va essayer de se caler parce que voilà, on est sous influence, c'est une réalité. Ben au fond, notre Dieu devient tout petit. Lorsque nous avons fait ce choix de lâcher la sécurité, on allait à l'opposé de ce que le monde dit, qu'il faut une sécurité financière, qu'il faut cotiser, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Et tout à coup, on disait non, on veut pas ça. On choisit d'obéir à Dieu. On lâche. Parce qu'on veut avoir une vision, une compréhension de Dieu, et à travers ce processus-là, qui a été un peu douloureux, je vous l'avoue, j'ai découvert que Dieu est bon et prend soin de nous, dans le sens qu'on n'a rien manqué. Alors, de manière différente, avec une gestion beaucoup plus serrée, mais on n'a rien manqué. Et ma vision de Dieu, qui était limitée en disant, oui, je sais que Dieu, tu vas faire que le 25 du mois, j'aurai mon salaire, merci Seigneur. C'était comme ça depuis des années, donc il n'y a pas trop de danger que ça change. Hein, ils étaient bien réglo à la paroisse des Buis, c'était agréable. Mais voilà, au fond, ma vision par rapport à ce domaine était limitée. Et tout à coup, il a fallu que je découvre que Dieu, en fait, était riche, était bon, était généreux envers nous. Une vision, une compréhension de Dieu nouvelle. Et ça, c'est la première étape, au fond, de ce qu'on doit saisir en tant que croyant, ou même en tant que non-croyant, découvrir qui est Dieu, parce que si on le voit, on a envie d'aller un petit peu plus loin, on a envie de goûter santé, et voyez combien l'Éternel est bon. Hein, ça, c'est un psaume qui nous dit ce texte, cette phrase-là, santé et voyez, goûtez, il y a vraiment cette invitation. Et voilà, Ésaïe, lui, il est un peu surpris, c'est une vision, quelque chose qu'il reçoit, est-ce qu'il la désire vraiment, mais enfin, elle est là, elle est devant lui, il la voit, il la reçoit, il la prend. Et découvre un peu plus. Mais cette première vision, cette première étape, amène Ésaïe à une deuxième. Ça, c'est la suite du texte, Ésaïe 6, les versets 5 à 7. Voilà ce qui nous est dit. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Ça, c'est la réaction d'Ésaïe. Il voit Dieu, il le découvre un petit peu plus, et il prend conscience du malheur qui est sur lui, du fait qu'il est perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et là, on est dans l'Ancien Testament, donc Jésus n'est pas encore là. Et pourtant, déjà là, on voit ce cœur de Dieu. Au fond, Dieu a en lui, la notion du pardon. Le projet de Dieu, c'est vraiment d'effacer la faute, le péché. Mais là, Ésaïe, il prend conscience que de lui-même. Au fond, cette vision de Dieu le ramène à lui-même. Non pas comme un égocentrisme, mais un retour, prise de conscience, voilà qui je suis réellement face à Dieu. Et au fond, c'est ce que la Bible appelle être la repentance. En tout cas, le chemin qui nous mène à la repentance, c'est cette prise de conscience de qui je suis, de ma réalité, de ma vie, de mes actes, de mes comportements, de mes pensées, de mes propos. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Il y a quelque chose qui doit prendre conscience aussi comme une vision de nous-mêmes, qui doit être corrigée ou rectifiée, peut-être qu'on n'a pas conscience. Alors, on le sait, quelque part intellectuellement, on l'a acquis, on l'a vécu, on l'a peut-être saisi à 5, 10, 15, 20 ou 40 ans pour les plus anciens. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une conscience de qui je suis, de ma nature, de cette nature qui m'anime, qui m'habite et qui fait de moi un homme ou une femme avec non pas seulement les lèvres, mais un cœur, des pensées et tout le reste au fond qui est impur. Au fond, ce retour à nous-mêmes n'est pas là pour nous lamenter, pour se lamenter, pour se regarder le nombril. Il y a tellement de gens qui se regardent, hein, et puis qui pensent qu'à eux-mêmes. Mais c'est vraiment cette notion, je regarde à moi-même pour pouvoir entreprendre cette démarche de repentance, de changement de mentalité ou changement d'intention, hein, ou de cette métanoïa, c'est le terme grec pour parler de repentance. Je change ma mentalité. Il y a quelque chose qui s'opère en moi qui fait que je ne pense pas la même chose. Je pensais que c'était comme ça, mais non, en fait, j'ajuste, ça vient. Il y a une transformation qui s'opère en moi et qui m'amène à. Mais cette transformation s'opère, premièrement, avec la vision de Dieu, une vision nouvelle. Ensuite, cette vision, je suis confronté à cette vision-là, prise de conscience, et ça m'amène dans un changement. Je ne peux pas changer par moi-même. J'ai besoin d'abord que Dieu vienne, que je découvre qui il est. Et ensuite, c'est à mon tour de laisser cette œuvre, cette vision, cette présence, cette personne de Dieu en moi transformée. Et puis, la troisième étape dans la vision d'Ésaïe 6, elle nous dit ceci. « J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » Troisième étape. Vision de Dieu, vision de soi-même, non pas pour dire ouais, « je suis un gars génial, j'ai plein de talents ». Oui, on est des gens bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette étape de dire « malheur à moi, je suis perdu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que quelque chose vienne me toucher pour enlever ça ». C'est ce qu'on évoquera tout à l'heure avec la Sainte Cène. Et à cette troisième étape, le Seigneur dit, mais qui vais-je envoyer ? Dieu se montre pas à Ésaïe comme ça, sans raison, en disant, regarde, je suis Dieu, je suis saint, je vais te faire peur. Il a un projet, transformer, rendre pur Ésaïe, mais ensuite, voilà, il y a un appel. Qui vais-je envoyer ? Quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours un objectif, un projet, il y a quelque chose derrière. Dieu n'a pas envoyé son Fils juste pour qu'on soit bien pendant l'éternité. Il a envoyé son Fils pour que, ici-bas, déjà maintenant, nous soyons en relation avec lui et que nous puissions aller. Vision de Dieu, vision de nous-mêmes, et ensuite envoi. Bien sûr, ça nous rappelle la fin de l'évangile de Matthieu qui nous invite à aller dans toutes les nations. Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous ne pouvons pas aller et faire de toutes les nations des disciples si au fond je n'ai pas compris qui est Dieu, si je n'ai pas compris qui je suis, mes limites, mon péché. Je suis obligé de faire ce parcours-là pour arriver à être témoin. Et là, vous comprenez un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça par rapport au projet que je vais vous présenter. Mais c'est aller répondre à l'appel de Dieu, ça nécessite bien sûr ce parcours. Vision de Dieu, vision de moi-même. Ensuite, réponse à l'appel de Dieu, à cette « qui vais-je envoyer ?» Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 9, au verset 26 et 27, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je boxe non pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Je sais, c'est Paul. Ok, on est tous loin de lui ressembler. Mais quand même, c'est dans la Bible, donc ça nous concerne. Donc on va le garder pour nous. Il y a une exigence dans l'appel de Dieu. Je ne peux pas me contenter de venir à l'heure le dimanche matin. C'est pas suffisant. C'est très très bien, parce que plein de gens ne le font pas dans cette église, dans d'autres églises. Je vous assure que dans des églises, c'est vrai, je m'occupe d'ados à l'église de réveil, et il y a des ados qui arrivent 3-40 minutes en retard, et je ne peux rien leur dire, puisqu'ils viennent avec leurs parents. Et c'est comme ça. Et alors je dis que c'est culturel, enfin j'ai trouvé des... Mais, et on fait comme ça. Et on sait que la première demi-heure, on doit faire des jeux, des trucs, parce qu'on attend que tout le monde arrive. Voilà, bon. Exigence, objectif, stratégie, discipline, pour moi, ce sont des mots qui doivent faire partie de la vie chrétienne. Paul utilise des images de la course, de la boxe, du combat, et un boxeur, il va combattre quelques minutes, mais derrière ces quelques minutes de combat, il y a des dizaines et des dizaines d'heures, des semaines d'entraînement pour être dans l'intensité du combat. Il ne peut pas arriver en disant « Ok, j'arrive à l'heure, et puis c'est pas possible. » Il y a une nécessité de s'entraîner, d'apprendre, de grandir, de s'améliorer, de devenir meilleur. Et tout cela pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, il y a une exigence. Et c'est vrai que dans notre société, on exige de moins en moins de choses de la part des gens. En même temps, il y a beaucoup d'exigences toutes sortes qui sont indirectes, sur le look, sur plein de choses, sur la notoriété, sur le fait d'avoir de l'argent, etc. Il y a énormément d'exigences. Et en même temps, on n'attend pas grand-chose des gens. Et les jeunes, surtout les jeunes, n'ont pas d'exigences. Quelqu'un me disait, au fond, ce qu'on attend des ados, c'est qu'ils fassent leur lit. Et voilà. Waouh. Ça, c'est défiant. Ouais. C'est quoi le but dans ta vie? Ben, je dois faire mon lit. Non, le reste, je laisse faire ma mère, c'est bon. Et on n'attend rien d'autre. T'as fait ton lit? Ok, et c'est bon. Mais c'est un tout petit peu ridicule. On n'attend pas grand-chose de notre jeune génération. Alors que c'est à travers l'exigence que, en fait, on va pouvoir apprendre, grandir, se former. Et puis c'est déjà quand on a 10-12 ans qu'on va commencer à pouvoir répondre à des... Même avant... Recevoir, avoir quelques exigences. Alors nous, on essaie avec nos enfants à mettre 2-3 exigences. Le lit en fait partie, oui, mais pas que le lit. Il y a d'autres choses. Pour leur apprendre qu'il faut se discipliner, qu'il faut, voilà. On n'est pas là pour les servir. Nos enfants, des fois, on dit, on n'est pas là pour vous servir. Alors maintenant, vous y allez. On est ensemble une famille et tout le monde participe. Bon, il y a une nécessité dans le fait de répondre à l'appel de Dieu, dans ce « aller » qui nécessite une exigence, une discipline. Si tu veux voir quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent. C'est une phrase assez bateau, ce que je viens de dire. Mais si on veut voir quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent. Il ne faut pas faire la même chose. Comme d'habitude, comme il y a 30 ans, 40 ans. Et en même temps, il faut commencer et il faut finir. C'est-à-dire que si je dis, ben voilà, je réponds à l'appel de Dieu, je commence, mais alors maintenant il faut continuer, jusqu'à ce que ce soit fini. Parce que s'arrêter au milieu du chemin, eh ben ça n'a pas de sens. Vous imaginez s'il n'y a pas de toit sur la chapelle ici? Ouais, on avait, ouah, c'est bon, la grâce de Dieu suffit, bon. On verra bien, c'est pas grave, mais c'est qu'un toit. On a déjà fait tout le reste, regarde. Ça n'a pas de sens de pas finir. Pour un bâtiment, c'est une évidence. On finit un bâtiment. Il est bien fini. C'est très joli. Non, parce que mon autre métier, c'est le bois. C'est pour ça que j'apprécie. On aime finir. On aime quand, et surtout en Suisse, on aime quand c'est bien fini. Et pourquoi, avec le royaume de Dieu, avec l'appel de Dieu, on ne voudrait pas finir? C'est-à-dire, mais je vais tenir ferme jusqu'au bout. Je sais que c'est un petit peu sans fin, Je suis d'accord avec vous. En tant que pasteur, c'était sans fin, qu'il y avait toujours un truc, quoi. Bon, je crois que ça va aller, ce coupe, merci Seigneur. Et une semaine après, bon, on y retourne. Bon. C'est vrai que c'est un défi. C'est vrai que travailler avec l'humain, répondre à l'appel de Dieu, faire quelque chose qui va servir, qui va aider, enfin, toutes sortes de choses, c'est un défi parce qu'au fond, des besoins, il y en a tout le temps. Donc, Mais en même temps, il y a la notion de dire, mais Seigneur, je veux finir ce que tu me demandes de finir. Je veux répondre à ton appel. On va regarder quelques slides, c'est-à-dire quelques diapos. Merci Christophe. Qui vont présenter un petit peu le projet que je lance, que je commence. Alors voilà, Jean 3,16, c'est en anglais, excusez-moi, mais bon, je vous le traduis, John en anglais, ça fait Jean en français. Bon, non, vous aviez compris. Cette image, je l'aime beaucoup, elle est sur la... J'ai fait une petite plaquette, une petite brochure qui présente le projet, j'en ai quelques-unes. Parfois, Jean 3,16, vous connaissez ce verset, hein? Rappelez-le-moi. Ah, vous êtes allé dans une librairie, vous. On sent là, l'amour de la lecture. Non, parce qu'elle me l'a dit tout à l'heure. C'est bon. Dieu a tant aimé le monde, ça c'est le message le plus extraordinaire qu'on ait. On possède le message le plus beau, un Dieu d'amour qui est là pour sauver l'humanité. Mais quand on y réfléchit, c'est incroyable. Et parfois, je dis pas tout le temps, hein, je dis parfois, on est comme ça. Nous, en tant que croyants, on prend ce message, on le met dans une bouteille, jolie bouteille, hein, on essaye de faire ça bien. Hein. On met un joli bouchon, et on se dit, Seigneur, fais qu'il se passe quelque chose. Et hop, on jette dans la mer. Voilà, Seigneur, merci, j'ai répondu à ton appel, j'ai commencé, j'ai fini. Et puis voilà, et on attend que peut-être un jour la bouteille arrive, peut-être sur une plage, que peut-être quelqu'un trouve la bouteille, que peut-être il ouvre la bouteille, que peut-être il lise le message dedans, ou qu'il comprenne, hein, parce qu'un Jean 3,16, bon, c'est pas toujours... John, hein, non, si c'est pas un anglophone, il comprend rien, bon. Et on est comme ça des fois, avec le plus beau message du monde, on a tendance à le jeter comme ça, et on verra bien. À la grâce de Dieu, c'est comme le toit, hein. On ne sait pas trop ce qui va se passer. L'essentiel, Dieu étant Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Nous, on ne s'occupe pas. Bon. Voilà. Je pense qu'on peut mieux faire. Alors, est-ce que ça va marcher? Bon, voilà. Ça, c'est le nom, le titre de mon projet. Accompagner l'Église dans une stratégie pour être témoin dans notre région. Accompagner, on comprend ce que ça veut dire, être à côté, marcher un moment. Stratégie, c'est un terme militaire. J'ai envie de conquérir un terrain, là, ou un territoire, un nouveau pays, une nouvelle région, voilà, parce que j'ai une ambition. Et on réfléchit, comment atteindre tel territoire? Alors, en ce qui nous concerne, c'est, on va pas faire la guerre, quoique... Il y a une réalité spirituelle quand même qui nous entoure, hein, on le sait. Mais on doit aussi réfléchir. Comment faire? Qui on veut atteindre? Se renseigner. Envoyer des espions. La terre promise a été conquise avec une certaine stratégie que Dieu a donnée, certes. Hein, Dieu a révélé des choses, Dieu a montré, Dieu a dit, prenez, visitez. Enfin, il y a tout un plan que Dieu a mis en place. Ensuite, il a donné des règles pour conquérir telle et telle ville. Enfin, voilà, il y avait des choses précises qui ont été faites pour... Il y a une stratégie que Dieu a mis en place, et nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes invités à avoir une stratégie pour atteindre quelqu'un, catégorie de personnes, voilà, en fonction de ce que le Seigneur nous donne. On réfléchit avant de dire bon, on y fait, et puis un an après, ouais, bon, on n'avait plus trop de force, ouais, c'était compliqué, puis bon, il y a déjà le culte, puis il faut arriver à l'heure, enfin bon, voilà. Hein? Je sais que l'Église prend beaucoup d'énergie, hein. Mais là, je ne parle pas de l'Église, on est bien, je parle de gens qui ont de fortes chances de jamais rencontrer Dieu, ici-bas et pour l'éternité. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un véritable problème. Beaucoup plus grand que la louange ou que des choses qu'on peut mettre. J'aime beaucoup la louange, hein, donc je joue. Mais des fois, on met beaucoup d'énergie pour certaines choses. Et qu'est-ce qu'on met comme énergie pour un véritable problème d'éternité? Des fois, on mesure pas l'effort qu'on doit faire pour l'Église. Moi, j'étais pasteur 12 ans, j'ai encouragé tout ce que je pouvais l'Église pendant ces 12 ans. On était une Église connue pour son travail sur l'extérieur. On a démarré des choses, on continue des choses. Enfin, programme d'animation pour les enfants du quartier et pour les ados. Continue toujours, j'y suis moins, mais je suis toujours là, j'accompagne. Mais c'est, et c'est un défi. C'est un défi parce que la première chose qu'on pourrait arrêter, c'est ça. Parce qu'au fond, ouais, mais bon, voilà. Accompagner. Alors, ça c'est une petite phrase que j'aime beaucoup. Tous évangélistes? Non. Non, non. Soyons pas fous. Non, non. Tous témoins? C'est écrit là. C'est écrit quoi? Tous témoins? Ok, donc j'ai deux, trois motivés, ça fait plaisir. Je crois, l'évangéliste, je crois que c'est un ministère, c'est quelque chose que Dieu donne à l'Église. Voilà, comme des pasteurs docteurs, il y a voilà, des prophètes, des apôtres. Bon, après, on rentre pas dans les problèmes de théologie, hein, moi j'aime pas ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui est donné à l'Église, il y a des gens qui ont vraiment une fibre, il y a des ministères d'évangélistes qu'on connaît, hein, voilà, Billy Graham, on connaît tous, puis d'autres. Hein, qui ont vraiment reçu quelque chose. Il y a certains qui ont vraiment une fibre, hein, ils n'ont pas forcément le titre, mais ça fait partie d'eux, ils ont vraiment ce côté-là évangéliste, c'est, voilà, ils ne peuvent pas s'empêcher. Mais, témoins, nous le sommes tous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui dit, j'ai vu ça. Oui, oui, dans le sens, voilà, mais dans le sens contemporain, je suis témoin, il y a un accident. Oui, je suis témoin, j'ai vu que c'est les plaques françaises là qui. Oui, 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 oui. J'ai des plaques françaises, je peux le dire. Hein? Je critique ce que je suis, hein. Non, non, mais j'aime tout le monde, hein. Vous inquiétez pas. Presque, hein. J'essaye. Bon. Tous évangélistes, non, tous témoins, oui, nous sommes responsables d'être témoins de ce que nous avons vu, vision de Dieu, vision de nous-mêmes, ça a transformé nos vies, et un appel, le premier, celui d'être témoin de ce que j'ai vu de Dieu, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai goûté, et je le transmets. Voilà, ça c'est tout marqué dans la brochure, mais c'est quelques étapes. Hein, objectif et finalité du projet. La finalité, c'est que l'Église soit missionnelle dans le sens qu'elle soit témoin dans toute sa dimension. On peut lire vite fait ça. Encourager et accompagner les croyants dans leur témoignage personnel. Ça, c'est la responsabilité, la responsabilisation de chaque croyant. Ça, c'est le cœur du projet pour moi. C'est le début du projet. On va responsabiliser tout le monde. C'est pas une affaire d'évangéliste. C'est une affaire de croyant, le témoignage. Hein? Je suis un croyant, donc je peux témoigner. Point. Service Pâques ou pas, c'est pas important. Là où je suis, voisin, collègue, partout. Encourager, accompagner l'Église dans son témoignage. Ça, c'est la dimension en dessus. C'est en tant qu'Église, qu'est-ce que nous avons comme témoignage à rendre? Quel est le mandat que le Seigneur nous donne? Nous sommes appelés à quoi en tant qu'Église? Il y a des saisons, on n'est pas obligé de faire ça pendant 50 ans. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à quoi? Pour les X prochaines années. Encourager, accompagner l'Église locale à définir une stratégie d'évangélisation. Ça reprend. Hein. Encourager, accompagner les Églises dans le développement d'une vision commune et régionale d'évangélisation dans le Grand Genève. Je m'excuse pour le terme. Ça a été voté sur Internet. Donc la région franco-valdo-genevoise s'appelle comme ça. Hein, toute cette dimension, même si le MCG... bon, passons. Il y a cette vision de dire, mais voilà, il y a 900 000, 1 million d'habitants, si on prend tout ce territoire-là, comment on peut faire en tant qu'Église de ce Grand Genève? J'étais, il y a la semaine passée, à la pastorale du Pays de Gex, et c'était, il y avait, je crois, deux pasteurs sur les sur la 12 ou 13 personnes qui étaient là, il y avait deux pasteurs, le reste, ce sont des laïcs, parce qu'il n'y a pas de pasteur. Voilà. Il y a des églises sans pasteur. Et c'est, tout à coup, j'étais là, waouh. Moi, j'ai fait que des pastorales avec des pasteurs. D'ailleurs, ça s'appelle pastoral parce qu'il y a des pasteurs. Faudrait appeler ça autrement. Des laïcales, je sais pas comment dire. Bon. Et là, il y avait toute une réalité. Mais comment on pourrait faire pour s'entraider aussi? Pour bénir cette région du Pays de Gex et puis toutes les autres régions. Puis, voilà, encourager, fortifier. Une vision commune. On est ensemble. Il y a combien d'églises à Genève? Il y en a une. Avec des succursales un peu partout. En fonction de la marque de voiture que vous aimez. Non, mais bien sûr qu'il y a des différences. Hein, mais il n'y a qu'une église et on est appelé à être ensemble. 200 églises à Genève, en tout cas, hein, si on compte toutes les dénominations, dont une centaine d'évangéliques ethniques avec des petits groupes. Hein. Non, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a environ 95% des gens qui ne vont pas à l'église. Donc, il y a encore du boulot. Encourager et accompagner les églises dans des actions d'évangélisation régionale. Donc, une fois qu'on a une vision, ben, il faut des actions. Hein. Oui, on a une vision, c'est merveilleux. Il y a le aller. Hein. Qui vais-je envoyer? Donc, on met en place des choses. Et le service PAC est un très bon outil, d'ailleurs, pour vivre quelque chose ensemble de régional. Et en finalité, que l'Église soit missionnelle et que l'humanité retrouve une pleine relation avec Dieu. C'est ça la finalité. Que les gens soient en relation avec Dieu, qu'ils soient sauvés, transformés. Moi, je trouve ça passionnant. Voilà, ça c'est le texte d'Ésaïe 6, verset 8. Hein. C'est l'appel que je vous lance ce matin. Et lorsqu'il y a un appel, téléphone qui sonne, en général, qu'est-ce qu'on fait? On répond. Alors, je vais vous laisser répondre. J'aimerais juste prier, en fait, avant qu'on continue. Père, j'aimerais te dire merci pour qui tu es. Merci parce que aujourd'hui nous avons une vision qui est comme juste, en tout cas éclairée, illuminée par ton Fils. Ce voile déchiré nous donne un accès à toi. Nous pouvons ainsi nous approcher avec assurance, avec sécurité, sans crainte, nous approcher de toi. Et même Ésaïe, ce même Ésaïe nous parle de nous pouvons aller sur tes genoux. Et Père, merci pour le Dieu si extraordinaire que tu es. Je prie, Père, que nous puissions le partager autour de nous. Partager le Dieu extraordinaire que tu es. Ce Père du ciel, ce Sauveur, ce Dieu de pardon, de guérison, ce Dieu qui prend nos fardeaux. Merci pour qui tu es. Amen.